I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga, me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love. Une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Meïssa a toujours voulu être maman de plusieurs enfants et connaître la maternité assez jeune pour pouvoir en profiter. C'est donc à l'âge de 21 ans, lorsqu'elle rencontre le premier homme de sa vie, qu'elle tombe enceinte. Une grossesse qui s'arrêtera au 7e mois et qui la confrontera au milieu hospitalier, parfois dur et impitoyable. Après cette épreuve de la vie, Meïssa sait qu'elle ne pourra faire son deuil que lorsqu'elle réussira à devenir maman, mais pour elle, hors de question de remettre un pied à l'hôpital. Alors, elle se renseigne, s'interroge et découvre le monde de l'accouchement à domicile. C'est une révélation. Dans cet épisode, Meïssa nous explique comment sa première grossesse interrompue aura été la meilleure chose qui soit arrivée à sa maternité. Elle nous raconte sa rencontre avec la sage-femme qui deviendra une sorte de mentor dans sa vie, ses 4 accouchements à la maison et comment tout ce parcours l'a amenée à aider les autres. Bonne écoute!
Bonjour Meïssa.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour ce nouvel épisode.
Avec plaisir.
Alors, tu as 4 enfants.
C'est ça.
4 filles.
C'est ça.
Est-ce que tu peux me dire quel âge elles ont ?
Alors, la grande Asia a 15 ans depuis peu. La deuxième, 12 ans, Tesnim. La troisième, MNA, elle a 8 ans, elle va avoir 9 ans. Et ma petite dernière, Bayen, a 27 mois.
Et comment est arrivé le sujet de la maternité ? Est-ce que depuis toujours, en tout cas depuis petite, tu savais que tu deviendrais maman un jour ?
Ouais, ouais. Alors, je vais t'expliquer. J'ai grandi dans une maison de filles. Ça veut dire que j'ai grandi avec ma sœur et ma mère, donc avec une maman solo. Et en fait, j'ai toujours voulu avoir une grande famille. Ça veut dire qu'avec ma sœur, j'avais l'impression... Donc, c'était cool, on s'éclatait et tout, mais on a eu vraiment une grande différence d'âge, 8 ans. Et du coup, je me sentais toujours triste quand je voyais les fratries dans les écoles. En fait, je ne sais pas pourquoi j'étais attirée par le côté grande famille. Enfin, moi déjà là-bas, j'en voulais 5, mais c'est juste la vie qui a fait que. Mais c'était vraiment pour moi, oui, je voulais beaucoup d'enfants. Je voulais des enfants, je voulais que ça vive à la maison. Pourtant, chez moi, c'était très vivant. On n'était que 3, mais c'était vraiment vivant. Je crois que c'est parce que c'était une maison de filles. Mais je voulais vraiment qu'il y ait des enfants. Ouais.
Et donc, tu t'es mis en couple.
C'est ça, je me suis mariée, jeune.
Ouais, t'avais quel âge ?
J'avais 21 ans.
Ok.
Voilà, j'avais 21 ans.
Donc, comment est arrivé le sujet de la maternité à 21 ans ?
Mais c'est ça, je voulais une grande famille. Ouais. Donc, pour moi, avoir une grande famille, c'était avoir des enfants jeunes. En fait, j'ai toujours voulu avoir des enfants jeunes aussi. Pour moi, c'était important de grandir avec ses enfants. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Pourquoi j'avais... Pour moi, avoir des enfants jeunes... Bah, déjà, ma mère ne m'a pas eu... Elle m'a pas eu tard, mais elle m'a pas eu jeune. Et elle a eu ma sœur quand même tard. C'est-à-dire qu'elle m'a eu, moi, à 30 ans, et elle a eu ma sœur à 38. Et je sais pas, j'ai l'impression que... Pourtant, ma mère, elle est hyper moderne, hyper cool et tout, mais j'ai l'impression qu'il y avait un décalage, en fait, et que je voulais pas avoir avec mes enfants. Je voulais avoir mes enfants jeunes, les commencer jeunes et finir jeunes. Parce que je voulais continuer encore plein de choses après, donc ouais...
Et t'étais à l'école à ce moment-là ? Tu bossais ?
Non, j'étais à la fac, ouais. J'étais à la fac et du coup, j'ai arrêté, ouais. Bah, parce que justement, quand je suis tombée enceinte, il y a eu... c'est pas une fausse couche, comment on appelle ça ? C'est...
Interruption médicale.
Ouais, c'est ça, une interruption médicale due à voilà, un bébé mort-né qui est mort in utero, en fait.
À combien de mois il est ?
7 mois et demi.
Ok, ouais. Donc t'as fait tout l'accouchement.
Ouais, exactement, tout. Ouais. Tout, ouais.
Comment t'as vécu cette première grossesse
difficile, difficile, ouais, parce qu'on trouve que le monde est injuste. Mm. Parce qu'on garde quand même de l'espoir, parce qu'on a quand même envie d'y croire, parce qu'on sait pas. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je vivrais ça, ce serait différent. Parce que j'ai 4 enfants.
Ouais.
Ça veut pas dire que ça remplace, mais qu'on sait que ça fait partie de la vie, en fait, de faire des fausses couches. D'avoir... En fait, c'est pas normal. En vérité, c'est pas normal d'avoir des enfants vite, facilement, du premier coup. Il y a quelque chose de chanceux, en fait, derrière. C'est quand même incroyable. C'est un miracle incroyable d'avoir un enfant. Et en fait, je pense qu'on oublie ça dans la société moderne. À l'époque, c'était hyper répandu d'avoir des enfants mort-nés, de faire des fausses couches. C'était normal, en fait, limite. Ça faisait partie du processus des femmes. Mais aujourd'hui, il y a ce côté... non, il faut que tout marche parfaitement. Il faut que je décide. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je vais avoir? Pourquoi? Enfin, il y a un côté un peu trop contrôlant à mon goût. Enfin, j'ai appris ça maintenant, hein, avec le recul. Hein, parce que sur le moment, non, c'était pas comme ça que je pensais. Ouais. Ouais.
Tu avais été suivie à ce moment-là?
Tu veux dire psychologiquement?
Ouais.
Ou à l'hôpital? Alors, j'ai pas voulu, dit la thérapeute. J'ai pas voulu parce que, en fait, ça s'est passé tellement vite et je trouve qu'on laisse pas le temps. Le temps, c'est quand même un allié dans ce genre de moment. Et moi, ça s'est passé très, très vite. Ça s'est enchaîné. C'est-à-dire que je suis partie à la première écho. On m'a dit, il n'y a pas de nuque. Et moi, je sais pas ce que ça veut dire. À l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas Internet. Enfin, ouais. Internet, c'est hyper dur. Hein. Si je te parle d'il y a 17 ans, c'était des... Enfin, voilà. Il n'y avait pas l'accès à Internet comme maintenant. Donc, je ne savais pas. Je ne savais rien. Quand je demandais, on ne me répondait pas. Donc, il y a quand même ce truc... Ce truc où ça arrive du jour au lendemain. J'arrive à l'hôpital, moi je vais pour le rendez-vous pour savoir qu'est-ce que l'enfant a vraiment. On me dit, il faut faire une interruption tout de suite. Parce que j'étais au troisième mois. Après je dis, non, en fait je suis pas venue. Enfin, 2 secondes, laissez-moi 2 secondes prendre conscience que là, concrètement, je suis en train de perdre un enfant. Laissez-moi prendre conscience de ça. Moi, j'étais en train de me dire, ouais, je vais être une maman, jeune maman. Je m'imaginais et tout. Et puis, du jour au lendemain, on me dit que c'est fini. Donc, 2 secondes, s'il vous plaît, 2 secondes. Mais ils n'ont pas le temps. Dans les hôpitaux, ils n'ont pas le temps. C'est vraiment grave, je trouve, en vrai. C'est vraiment grave. Et puis, il y a ce côté un peu où tu n'es pas décisionnaire de ton corps. Je te parle quand même d'il y a 17 ans. D'accord ?
Ouais.
Je parle d'il y a 17 ans, donc c'est pas comme maintenant. Maintenant, heureusement, ça a évolué, ça y est, ça commence à se développer. On parle des violences gynécologiques, on parle de ci, on parle de ça. Donc voilà. Mais moi, par exemple, quand j'allais, je disais, non, j'ai pas envie de me faire ausculter. Oh, c'est bon. Et puis.
On te laissait pas le choix.
On te laisse pas le choix. Et puis surtout, les raisons, c'était pas par rapport à ma religion ou quoi. Parce qu'à chaque fois, on veut me mettre ça en porte-à-feu, comme si que c'était forcément dû à ça. Ben non.
Parce que t'es de confession musulmane.
Je suis de confession musulmane et je porte le foulard, etc. Mais en fait, c'était même pas à cause de ça. C'est tout simplement parce que, tu vois, le lit où ils t'auscultaient, quand t'ouvres les jambes, ça donnait sur la porte.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentraient, qui sortaient.
Ah, aucune intimité.
Donc, aucune intimité. Donc moi, quand je disais, ben non, en fait, je vais pas me faire ausculter. Oh là là, elle commence, celle-là. Et puis, ils commencent à parler entre eux, etc.
Ah.
Et ça, c'est... Waouh, je trouve ça... Ça a clairement rompu mon lien à l'hôpital. C'est-à-dire que... Enfin, depuis... Et aujourd'hui, bizarrement, je remercie Dieu de cette épreuve-là, parce que ça m'a permis d'arriver à ma suite dans ma maternité.
Oui.
Je pense que si j'étais pas passée par cet épisode douloureux, j'aurais jamais pu être et la mère que je veux, et avoir les accouchements que je veux aussi.
Suite à la perte de cet enfant, au bout de combien de temps le cheminement se fait pour retenter...
Assez rapidement, parce que je voulais pas tomber dans le truc de non, plus jamais.
D'accord.
Tu vois, un peu le truc traumatisant où tu te dis non, plus jamais, je ne serai pas capable et tout. Il y avait un peu ce côté revanche sur la vie. Tu vois, j'ai attendu, on a voyagé, on a kiffé, on a fait des trucs. J'ai fait le deuil, entre guillemets. Enfin, je pense à avoir fait le deuil. Mais en même temps, je pense que ce deuil-là, il a pu vraiment se fermer, se clôturer qu'avec l'arrivée de mon bébé. Tu vois, tant que j'avais pas de bébé dans les mains pour me dire que je suis capable d'être une mère, ben j'arrivais. Je pense qu'il manquait une phase à mon deuil, tu vois. Donc ouais, on va dire, je crois 2 ans après, hein, ou 1 an et demi après. En fait, je suis tombée enceinte genre 1 an après, ouais.
D'accord. Et comment s'est passée cette deuxième grossesse?
Alors, cette deuxième grossesse, au début, donc... Faut pas oublier que j'étais super jeune, hein. Donc je suis retournée voir, avec un petit syndrome de Stockholm, la gynéco qui me suivait à l'hôpital, au début. Et je sais pas, je vais là-bas, je suis angoissée, je suis pas bien. Je revois les salles, je revois le truc où j'ai mis au monde un bébé mort-né, en fait. Donc, je revois tout ça et ça crée en moi des... Tu vois, des angoisses, un mauvais sentiment, tu vois, quelque chose où je me dis, non, je veux pas dire, je veux pas donner ça à ma fille, à mon bébé, je savais pas c'était quoi. Je vais pas revivre ça de cette façon-là. Il n'en est pas question, en fait. Ben non. Et un jour, je suis posée avec une copine à moi et elle me dit... Je t'en parle parce que c'est vraiment arrivé vite fait. Hein.
Ouais.
Genre, je suis partie faire des... En fait, je suis partie à un rendez-vous à l'hôpital avec le même docteur parce que, soi-disant, ils m'ont dit, vous êtes une grossesse à risque. Donc, vous devez être super suivie parce que vous avez déjà eu un problème.
D'accord.
Ce qui est complètement faux parce que c'était un problème... isolé génétique, c'était pas le cas dont on a fait le cariotype et tout, c'était pas un problème dû à un problème sanguin entre mon ex-mari et moi, c'était vraiment le côté c'est pas de chance tout simplement. Et donc oui, grossesse d'un an qui commence à me mettre l'angoisse un peu, je me sens pas bien et là j'écoute mon instinct malgré le jeune âge, je me dis ah, vas-y c'est bon, je m'en fous de je j'y retournerai pas.
Ouais.
Voilà, j'y retournerai pas, j'en ai rien à foutre.
Tu te dis quoi là, que tu vas changer d'hôpital, de maternité?
Ouais, je me dis, je vais changer de maternité, je vais voir, et je commence à me renseigner. Qu'est-ce qui est un peu plus naturel? Où est-ce que je peux aller sans qu'on me rappelle cette histoire?
Ouais.
Où est-ce que je peux redonner une naissance indépendamment de ma première expérience? Tu vois, quelque chose de plus neutre, où on me prend moi, en tant que nouvelle maman, et pas moi, avec ce passif douloureux d'une grossesse qui a été compliquée et en fait qui s'est soldé par un bébé mort, tu vois, tout simplement. Et du coup, je cherche un peu à droite à gauche, je regarde. À l'époque, il y avait YouTube et il y avait les maternelles. Et puis, je vois un truc, l'accouchement à domicile, tu vois. Mais je fais pas attention. Vraiment, à l'époque, tu sais, c'était les pionnières. Elles parlaient beaucoup de plein de trucs. Et puis, je regarde, mais je fais pas attention. Et un jour, je suis avec une copine, on est en train de parler. Et je me rappelle, je suis à 4 mois de grossesse quand même, donc j'étais en mode, c'est bon, je m'en fous en fait. Le pire, il est déjà passé. J'ai déjà vécu le pire en fait. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que ce qui m'est arrivé là? Donc c'est bon, je m'en fous. Adviendra ce qui adviendra, ça y est, c'est pas grave en fait. Si ça doit se repasser, ça se repassera. Parce que de toute façon, quand j'ai été suivie avec eux, ils n'ont pas pu sauver mon bébé, ils n'ont pas pu en fait changer le cours des choses.
Ouais.
Donc... À quoi ça sert de me rajouter l'angoisse avec eux, avec leur suivi, leur truc, 53 prises de sang, 375 trucs, c'est bon. Donc j'ai arrêté d'y aller, en fait, tout simplement.
Et t'avais fait la première écho quand même
Ouais, j'ai fait la première écho pour voir. Mais je crois, et tu sais quoi, je ne me rappelle plus, mais oui, je suis sûre, je ne l'ai pas faite à l'hôpital.
D'accord.
Voilà, j'ai pas voulu la faire à l'hôpital, j'ai fait dans un autre endroit qu'un autre truc. On m'a dit tout va bien, bébé va bien, oui, développement. Parce qu'ils savaient pas mon histoire déjà, donc ouais, ça va, tout se passe bien et tout. Et puis moi, je voulais pas montrer que j'avais ce rendez-vous, il était. C'était une. Comment dire une, pas une revanche, parce qu'on n'a pas de pouvoir là-dessus, mais un côté, en fait, un soulagement, tu vois. Ok, c'est bon, d'accord, on y va. Mais j'y allais quand même. Bizarrement, j'y allais à tâtons. C'est-à-dire que je ne m'enflammais pas, et d'ailleurs, c'est des habitudes que j'ai gardées pour tous mes enfants, je n'achète rien. Tu vois? Jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que mon ventre il explose, et j'achète des choses, genre, strictes nécessaires.
Okay,
parce qu'il y a toujours ce truc de on ne sait jamais.
Ouais.
Ça peut arriver. Et jusqu'à maintenant, je ne vais pas te cacher, quand je vois, bien sûr, je ne juge pas, mais quand je vois des baby showers, des choses comme ça, tu vois que maintenant, qui sont trop à l'excès, c'est trop abusé, on dirait l'enfant est déjà là alors qu'il n'est pas là.
Mmh.
Et ben en fait, je me dis. Je pourrais jamais comprendre parce que moi je suis passée par un épisode où ça sert à rien de célébrer quelque chose qui n'est pas là.
Ouais.
Tu vois.
Ouais. Donc tu décides de plus aller dans cette maternité.
Ouais.
Et alors comment tu vis cette grossesse, comment ça se passe pour les...
Ça va. Donc là je papote avec une amie un jour, je suis en train de prendre un thé et tout, elle me dit alors ça va et tout, je lui dis ouais, je vais plus à l'hôpital, c'est bon, ça me saoule. Ça va, c'est bon, ils me prennent la tête, quoi. Elle me dit, mais tu sais, j'ai une pote et tout, elle a couché à la maison. Je dis, quoi? Premier effet, je dis, mais t'as le droit?
Ouais.
Tu sais, tu te rends compte? C'est le premier truc que je me dis, t'as le droit? Elle me dit, bah ouais. Je dis, mais... deuxième question. Mais c'est les pompiers qui sont venus, mais elle a... Enfin, si elle a pas eu le temps. Ah non, non, mais elle a voulu accoucher à la maison. Après, je lui dis, mais... Et là, c'est comme si dans mon corps, en fait, je savais que c'était fait pour moi.
Ouais.
Tu vois, c'est trop bizarre, cet électrochoc où j'ai dit, oh, c'est ce que je veux. Tu vois, c'était un moment où, tu vois, je t'en parle, j'ai la chair de poule, mais vraiment, c'était un moment où moi, j'étais posée, je m'en rappellerai toujours, ma position et tout. Et je me suis dit, mais ouais, c'est ce que je vais faire, en fait. Sans me prendre la tête avec la douleur, sans me prendre la... J'ai dit, c'est ça que je veux. Donc après, je lui dis, bah, passe-moi les coordonnées et tout, parce que comme je te disais encore une fois, Internet, c'était compliqué. Et elle me donne, je me rappelle, elle me sort un petit carnet, mais tu sais, les petits carnets, tu sais, les tout petits, là, de bloc-notes. Elle me sort comme ça en papier avec un truc, tu sais, on dirait une incantation. Elle me donne un truc. Moi, je prends, elle me donne trois sages-femmes.
D'accord, elle connaissait trois sages-femmes.
Elle avait dans son carnet trois sages-femmes parce qu'elle s'était dit, moi aussi, je suis saucée, si je retombe enceinte, j'aimerais bien faire l'accouchement à domicile.
Ok.
Donc, et il faut savoir que je ne savais pas du tout. Enfin, en fait, quand on a discuté, pourtant, c'était une amie et tout, mais on n'avait pas cette connaissance l'une sur l'autre. Enfin. Mmh. Et du coup, j'appelle donc deux sages-femmes et je prends rendez-vous. Je prends rendez-vous parce que je me dis, c'est quand même un accouchement. Et déjà, là, je me rends compte, maintenant, avec le recul, que je commençais à m'émanciper. C'est-à-dire que je me dis, je veux rencontrer deux sages-femmes et je veux choisir.
Ouais.
Tu vois,
ouais.
Je veux choisir avec qui je vais accoucher. Donc, tu vois, mine de rien, c'est dingue. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, un autre élément qui m'a fait partir de l'hôpital, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, t'as une sage-femme qui fait ton suivi, t'as une gynéco qui fait ton suivi. Mais en fait, c'est possible que le jour de ton accouchement, ce soit pas ces gens-là qui te suivent, qui te fassent accoucher. Donc, au niveau de la confiance, tu crées une relation pendant toute ta grossesse. Puis, à la fin, c'est pas cette personne-là qui monte ton bébé. Tu vois, donc, il y a des petits paradoxes comme ça qui ont fait que... Donc voilà, j'appelle, je prends rendez-vous, je tombe sur une, super zen, voix, tu vois un peu le truc, je sais pas, c'est vraiment zen en fait, hyper apaisante et tout. Donc je prends rendez-vous avec elle et j'en appelle une autre, voix, déjà, elle décroche, oui, je lui dis bonjour monsieur, est-ce que je pourrais parler à madame Govillier s'il vous plaît ? C'est moi. Je dis, ah d'accord, déjà malaise, tu vois. Et après, je dis, bon, ben, je voudrais prendre rendez-vous pour un accouchement à domicile. D'accord, tel jour, telle heure. Je crois qu'il y avait un jour de décalage entre les deux. Je vais au premier rendez-vous, super zen et tout. Je vais avec mon ex-mari à l'époque, super, machin. Et elle me dit, par contre, je travaille en binôme avec un homme qui s'appelle, j'ai oublié son nom, mais c'est le premier homme sage-femme de France.
D'accord.
Qui fait les accouchements à domicile. Je travaille en binôme avec cet homme-là. Donc, il est possible que si, par exemple, je ne sois pas présente, je ne sois pas dispo parce que je suis sur une autre naissance à domicile, ça soit lui qui soit envoyé. Élément rédhibitoire.
Ouais.
Parce que j'ai dit, je voulais que ça soit une femme, tout simplement, déjà. Et en plus, le côté, bah, on recommence, en fait. Mmh. Je crée une relation avec toi, et derrière, c'est possible que ça ne soit pas toi. Je voulais pas qu'il y ait ça.
Ouais.
Tu vois, je voulais vraiment une continuité entre le suivi et la naissance, tout simplement. Donc voilà, donc du coup, bon, rédhibitoire, mais en mode quand même, j'aimais beaucoup son côté hyper, vraiment zen, en fait, il n'y a pas d'autre terme, c'est hyper apaisant. Je vais au rendez-vous le lendemain avec l'autre sage-femme, Geneviève, avec sa voix là, je l'aime tellement, donc avec sa voix qui est hyper déstabilisante, parce que souvent, quand toutes les sages-femmes que j'ai rencontrées, bah, c'est la plus différente du stéréotype des sages-femmes qu'on a l'habitude d'avoir. Tu vois, une sage-femme, il y a quand même un côté hyper maternant, qui accompagne la femme, qui est vraiment douce, enfin, douce, gentille. Elle est douce, gentille, tout ça. Hein. Mais en fait, il y a un paradoxe en elle. J'ai adoré.
Ouais.
Tu vois, c'est le paradoxe. Je l'ai adoré. Ça veut dire que ce côté atypique, ce côté... Donc, elle arrivait, humour. Déjà, ce que j'ai adoré aussi, c'est le côté... Je te teste, en fait. Moi aussi, je vais décider si on va collaborer.
Et oui, c'est important aussi.
Parce que, voilà, c'est un truc qu'on va faire ensemble.
Ouais.
Donc ça, j'ai aussi aimé le fait que bah, elle me choisisse ou pas. Tu vois, il y avait ce côté-là. J'ai aimé le fait qu'elle soit... c'est une thérapeute. En fait, c'est tu vois, pourquoi je te dis, moi, dans mon cheminement, c'est elle, en fait, qui m'a ramenée à tout ce cheminement d'accompagnement des femmes, tu vois, de compréhension des femmes. C'est elle, c'est une femme extraordinaire. Tu vois, genre, c'est une féministe qui s'ignore. Tu sais, elle s'en fout, en plus, des termes. Elle n'est pas là-dedans, elle s'en fout. Elle est là, je viens, je mets au monde des bébés. Voilà, c'est tout ce qui l'intéresse. Mais c'est une féministe, c'est une thérapeute, c'est une accompagnante. C'est une femme extraordinaire. Mmh. Vraiment, Et c'est pas seulement parce que... Son personnage, son authenticité, je l'ai admirée tout de suite. Tu vois ?
Coup de cœur.
Coup de cœur. Immédiat. Pareil pour mon ex-mari, pareil.
Et alors, quand tu vas chez elle, est-ce que tu avais préparé des questions ? Qu'est-ce que tu te disais sur
ouais,
l'accouchement à domicile ?
Ouais, je suis arrivée, voilà, est-ce qu'il y a une péridurale ? Ouais. Tu vois, des questions comme ça. Je sais pas, déjà, je vais raconter. Donc, voilà ce qui s'était passé.
Ouais.
Donc, elle était... un peu énervée, tu vois, en mode « Ah d'accord, ouais, c'est ce qu'on fait, ok. » Elle, elle a quand même quitté le milieu médical tout en étant rattachée à un hôpital. C'est-à-dire que si t'arrives le moindre pépin,
oui,
elle t'amène, elle te fait rentrer, puis bim, et puis t'arrives direct en salle d'accouchement. Tu passes pas par les urgences et tout, mmh, tu vas direct. Donc ça, c'était le point aussi rassurant, parce que, bon, on sait pas trop, tu vois. Donc voilà, mais je sais pas, qu'est-ce que je posais comme question ? Ben, je sais pas. En fait, tu sais, elle était tellement dans la discussion, elle savait tellement mener la danse que t'avais plus besoin de poser de questions.
D'accord.
Tu vois, c'était vraiment. En fait, ce que j'avais aimé chez elle, surtout après mon histoire. Écoute, t'es une mère, tu vas mettre au monde ton gosse, c'est bon quoi. Tu vois, le côté léger, wow, c'est bon, j'ai le droit.
Ouais.
Tu vois, c'est bon, elle croit en moi. Mm. Tu vois, c'est bon, je vais y arriver, c'est bon, tu vois. Et ça, c'est... Après, elle t'accompagne. Tu sais, elle te fait des cours, les cours de préparation à la naissance. C'est pas seulement la respiration, c'est... Tu vas accoucher à domicile, tu vas avoir mal. Tu vas voir que là, ce que je suis en train de t'expliquer, il faut que tu le mettes dans ta tête parce que ça va t'aider au moment où tu vas avoir mal. Mm. Puis elle t'explique, elle donne aussi des conseils aux autres parce qu'elle accompagne toutes les personnes, pas seulement d'accouchement de naissance à domicile. Donc elle explique, écoutez, vous dites que vous ne voulez pas ça. Vous dites que, je ne sais pas, cette position, vous faites mal, vous avez ce droit-là. Vous avez ce droit-là. C'est-à-dire que sans savoir, elle militait déjà pour la réappropriation du corps des femmes pendant le moment de la naissance.
Oui.
Ce qui n'est pas rien.
Mm.
Aujourd'hui, ça s'est démocratisé, mais je te parle de ça il y a 16 ans. Donc, tu vois, c'était dingue. Enfin,
voilà. Et la préparation, alors, c'était comment ? C'était qu'est-ce que tu devais faire ?
Point d'interrogation. Enfin, en fait, quand je te dis point d'interrogation, c'est préparation, c'est... Il y a une préparation avec le mari pour, lui, le rendre vraiment, comment dirais-je, acteur.
Mm.
Parce qu'en fait, son objectif, c'est que tu sois l'actrice de ton accouchement. Elle est là juste pour vérifier que tout se passe bien. Mais en vérité, toi, t'es en roue libre. Tu fais ce que tu veux. Par exemple, les questions que j'avais posées, encore une fois, liées à ma première expérience, c'était, est-ce qu'on peut manger ? Ça paraît bête. Mais moi, pour mon premier accouchement du bébé mort-né, c'était une horreur parce que je faisais de la fièvre et que j'avais soif et que j'avais faim et que ça a duré longtemps et que j'étais épuisée, littéralement épuisée.
T'avais eu toutes les contractions. Ouais.
Tout, mais tu sais, en plus, ils te font les contractions artificielles. Donc, c'est des contractions qui sont juste insupportables. Mmh. C'est-à-dire, même à la péridurale, elles étaient insupportables. Pourtant, j'ai accouché après, sans péridurale. Ça n'avait rien à voir.
Mmh.
Tu vois ? Donc, truc tout bête, est-ce que je peux manger ? Bien sûr, tu peux manger. Bien sûr, tu peux boire. Et heureusement que tu vas boire. Et heureusement que tu vas manger. Tu vois, tous ces trucs-là où tout était simple.
Ouais.
Simple.
Et concrètement, du coup, ça se formalisait comment ? C'était donc chez toi,
ouais,
dans ton
chez
salon.
Moi. Ouais, en fait, en gros, juste avant. Donc, alors, bon, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux premières, j'ai fait la même chose, une fissure de la poche des os. Mmh. D'accord ? En fait, arrivé un certain. Donc, au début, tu vas la voir au cabinet. Elle n'est pas très loin. Elle est à porte de Bagnolet-Lila, tu vois, entre les deux. Et après, en fait, elle vient à domicile. Elle vient.
Okay.
Donc elle vient pour la... Mais elle, sa surveillance, attention. Par exemple, pas de toucher vaginal. Tu vois ? Dès le début, hein, elle te dit, est-ce que tu veux que je t'ausculte ? Est-ce que ça te rassure que je t'ausculte ? Tu vois ?
Mmh.
Donc à la fin, oui, t'as envie de savoir ton col, il en est où ? Mais pendant toute ma grossesse, pas de trifouillage, en fait.
Ouais.
On me laisse tranquille. On me laisse mon corps. Tu vois ? Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que tu vois, à l'hôpital, tu vas... Yeah, bien sûr, il y a des bonnes choses à l'hôpital, hein, je vais pas... Mais, tu sais, on t'impose les choses, tu n'es rien. Tu as un numéro qui doit accoucher à telle date. Mmh. Donc, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça se passe bien? Boum, ils te mettent les doigts à l'intérieur, ils regardent, non, c'est fermé, attention, le col... Toi, t'es là, c'est ton corps. Puis en plus, on va pas faire comme si que ausculter une main, c'était comme ausculter un vagin. Tu sais, c'est pas la même chose. Tu vois, faut arrêter avec ce truc de... C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Mmh. Bah sinon, on se baladerait tous à poil, en fait. Puis voilà. On sait bien qu'il y a quelque chose, tu vois. Mmh. Et donc voilà, et tout ça, c'était pour moi, c'était merveilleux. Je lui faisais part de mes inquiétudes. Donc c'est pour ça que je suis une thérapeute aussi. Je lui faisais part de mes peurs, de toutes ces choses, parce que c'était mon premier enfant que j'allais mettre au monde à domicile. Tu vois. Bien sûr, pas de péridurale, rien. Enfin voilà. Et elle t'explique comment ça se passe, en fait. Donc, en gros... Ah oui, et oui, j'ai fait une fissure de la poche des os. Et elle me dit, écoute bien, si dans 48 heures, t'as pas accouché, on va à l'hôpital. Et moi, je pleure. Je dis, non.
Elle décompte comment, quoi.
C'est pas possible. Oh, ouais, c'est pas possible. Comment ça? Pourquoi je veux partir à l'hôpital? Mais pourquoi tu me fais ça? Et c'est pas possible. Et moi, je suis dans un état, mais quand je te dis un état, donc elle me dit, il faut que tu marches. Je vais te donner les coordonnées d'une sage-femme qui fait de l'acupuncture. Tu vas aller la voir. Et moi, je peux te dire, mais j'ai marché. Mais vraiment, marché. Mais là, tu connais le secteur, toutes les pentes qui montent au plateau, mais je te les ai faites, mais d'une traite, mais sans réfléchir. Avec la fissure de la poche des os en plus. Donc, c'était un petit peu galère parce que tu vois, t'es tout le temps mouillée.
Ouais,
tu vois.
Ouais.
Plus après l'acupuncture. Parce qu'il faut savoir qu'avant, quand j'ai changé, j'avais une vraie phobie des aiguilles. Mmh. La vraie phobie. Après, la vie a fait que j'ai dû prendre un traitement lourd après pour autre chose, qui a fait que j'ai dû me piquer moi-même, tu vois, l'ironie du sort. Mais, donc acupuncture, tu vois, je commence à sentir un peu les énergies. Et donc, j'en étais à quelle date? J'en étais à... Il faut que dans la nuit ou le lendemain matin, en fait, si le lendemain matin, l'accouchement ne commençait pas, j'allais partir à l'hôpital.
Un peu la pression, quand même.
La pression, je te jure. Et donc après, j'arrive, on fait l'acupuncture et tout. Je dors. Je me réveille le lendemain matin. Je me rappelle, je me lève, je fais ma prière. Je commence un petit peu à pleurer parce que je me dis, bon, bah, il n'y a rien eu. Et d'un seul coup, je vais pour me lever. Coup d'électricité. Je me dis, je crois que c'est là. Parce qu'elle m'avait dit aussi un autre truc à la préparation à l'accouchement. Elle a dit, ça ne va pas être les contractions de fin de grossesse. Il va se passer un truc où vous allez savoir que c'est un signal, en fait. Mmh. Le corps, il est en train d'envoyer un signal. Et c'est vrai que cette douleur-là, je l'ai eue pour tous mes enfants, c'est-à-dire le top départ.
Ouais.
Et du coup, là, je sens que c'est ça. Après, je sens que ça revient. Je me dis, oh, on dirait que c'est le moment, tu vois. Et du coup...
Alors là, l'installation, c'est quoi à la maison?
L'installation, c'est quoi? Elle te donne une liste de courses.
Ok.
Avant, à préparer. Mmh. Elle te fait signer des trucs, elle t'explique tout ce qu'elle va faire au bébé, elle t'explique tout ce que tu n'es pas obligé de faire au bébé, tu vois, comme par exemple le bain, comme par exemple, tu sais, ce qu'ils font là quand ils rentrent pour aller chercher, ils rentrent un truc dans les bébés, les parents ne voient pas, hein, mais quand ils prennent l'enfant, qu'ils vont le nettoyer pour le rendre tout propre, encore une fois, hein, société de perfection, tout propre à la maman, ben en fait, ils vont rentrer des sondes pour aller chercher, tu vois, le liquide, ils ont vidé, enfin voilà, ils ont... propre, quoi. Et donc elle m'avait expliqué tout ce process là, elle m'avait dit voilà, c'est pas obligatoire, ton enfant au contraire une régénération doit se faire naturellement, le vernix c'est hyper bon, si ça, enfin elle avait tout expliqué. Et du coup elle te donne une liste, cette liste là tu vas acheter les courses, donc c'est bâche protection,
ouais,
d'accord, pour la pièce où tu veux accoucher, donc enfin des alaises, beaucoup d'alaises, sac poubelle, enfin après voir papier toilette, tu vois, tous les trucs que nous on voit pas quand on va à l'hôpital, serviettes, enfin voilà, des trucs vraiment l'achat le plus extraordinaire, on va dire, c'est les bâches et les alaises. Après t'as les autres trucs, genre t'as d'autres trucs, tu as les osines, elle te prescrit plein de choses en fait pour les soins du cordon, enfin tu vois, plein de trucs. Elle te dit aussi, si tu te déchires, il y a moyen que je te recoue à vif. Voilà, donc elle te l'explique. Après, elle te dit, mais il y a aussi un autre moyen. Et là, elle me parle du bout de placenta, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, pendant quelques jours, tu conserves un bout de ton placenta et en gros, que tu changes comme un pansement. Et comme c'est une régénérescence cellulaire de dingue, En fait, tu cicatrises de dingue.
D'accord.
Sans être recousue. C'est vraiment ouf, vraiment. Donc voilà. Donc après, donc, je disais, les grossesses, les contractions s'enchaînent. Elle te dit, tu m'appelles que quand les contractions sont régulières, toutes les 10 minutes. D'accord ? Tu m'appelles pas avant parce que ça peut être un faux travail. Et tu m'appelles pas après parce que ça peut être trop tard. Donc ouais. Tu l'appelles. Elle est en général, elle s'arrange pour être dans un rayon de 30 minutes, pas plus en fait, pour pouvoir arriver quoi qu'il arrive. Et un rayon pas loin d'un hôpital aussi.
Ouais.
D'accord. Donc voilà, elle vient avec un petit stéthoscope pour écouter le bébé, sa position, tout ça. C'est quand même une femme qui a de la bouteille. Hein. Donc elle a fait 20 ans de sage-femme à l'hôpital, donc elle sait comment ça marche, on va dire. C'était une échographe avant. Donc voilà, j'avais entièrement confiance en elle, quoi, vraiment entièrement confiance. Et puis ça a duré, les contractions, et puis t'es là, et puis tu pleures, et puis elle te parle. Et puis elle veut te masser, elle dit à ton mari, masse-la. Et puis t'as celles qui veulent pas, comme moi. Laissez-moi dans mon coin, me touchez pas.
Ouais.
Laissez-moi avec ma douleur, laissez-moi tranquille.
Toi, t'étais installée où, dans ton salon?
J'étais dans mon salon, ouais. Pourtant on avait tout préparé dans la chambre, mais tu vois, c'est vraiment instinctif. Par exemple, prendre un bain, j'ai pas supporté ça.
Ouais.
Tu vois, je n'ai pas supporté l'eau, ça ne m'a pas du tout détendue. Je voulais vraiment être moi. En fait, c'est bizarre, tu peux pas prévoir ce que tu vas aimer. C'est vraiment. Là, tu redeviens un animal, tu vois. T'es en mode instinctif. Ah, ça me fait mal, je me mets dans telle position. Ah, ça me fait mal, je crie des cris bizarres. Ah, tu vois, genre, c'est vraiment un truc où tu peux rien contrôler, toi. Mm. Tu peux rien contrôler, ouais. Et donc, elle est là, et elle est présente, en fait. Elle te dit des choses, des fois, tu pleures. Elle comprend pourquoi tu pleures sans que tu parles. Elle te dit, t'inquiète pas.
Elle te motive.
Voilà, elle te motive. Ouais. Tu vas me le mettre au monde, ce gosse. Ça va arriver, t'inquiète. Et puis j'aime en fait ce côté, tu vois,
abrupt.
Ouais, abrupt, tu vois, le brut de. Elle a confiance en toi, les yeux fermés. Donc toi, t'as confiance en toi, bizarrement, tu vois. Mm. Elle te dit, C'est pas vraiment du coaching, c'est vraiment un côté, une présence qui te dit, c'est bon, te prends pas la tête, ça va le faire.
Est-ce qu'il y a un moment où t'as justement, tu t'es dit, ah non, mais là, je peux pas.
Le plus dur dans l'accouchement, c'est vraiment le dernier moment. C'est vraiment les 10 dernières minutes.
Parce que là, c'était combien de temps? 2 minutes.
Alors, j'ai mis que 5 heures.
D'accord.
Donc, c'est vraiment une chance. Parce que les premiers bébés, c'est quand même un bon 12, entre 8 et 12 heures. Donc, moi, j'ai mis que 5 heures. Donc, ça, c'était vraiment extraordinaire. Du coup, c'est passé super vite en vrai. Mais j'oublierai jamais. Et le pire, c'est vraiment, franchement, la dernière demi-heure. Les dernières. En fait, ça y est, le bébé est engagé. Donc, il n'est plus là. Mmh. Il est vraiment en bas. Et chaque contraction, tu sens que ton bébé est en train de descendre. Et il y a un moment, elle te le dit à la préparation de l'accouchement, le moment où tu sens que tu as envie d'aller aux toilettes, c'est que le bébé est en train d'arriver, là, ça ouais. arrive. Et elle dit, n'ayez pas honte devant moi, c'est mon travail. Mmh. Je suis là pour ça, je m'en fous de ton pipi, ton caca, en fait. C'est bon, je regarde pas ça. Je veux tomber. Donc, t'es vraiment libre. Et en plus, elle s'arrange pour quand même te garder un peu de féminité, tu vois. C'est-à-dire qu'elle va pas enlever le truc et le montrer à toi. Enfin, tu vois, fais le truc discreto. Ouais. Tu sais même pas, en fait. Hein. C'est-à-dire que si elle te le dit pas, tu sais pas que t'as fait quelque chose. Donc, ouais. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et bizarrement, ce que je dis tout le temps pour mes accouchements, c'est que ce dernier moment, ça reste quand même le plus beau. Parce que c'est la douleur. Mais en fait, elle est tellement intense dans tout ton corps que cette douleur-là, je pense qu'elle est complètement nécessaire. Elle est tellement insupportable que t'en veux plus, en fait, de cette douleur. Donc, tu sens que ton corps, il t'envoie un message, genre, pousse, tu pousses. Ouais. Tu vois, tu pousses, c'est naturel, t'es en mode... Oh. Alors, des fois, c'est marrant parce que je repense. Des fois, instinctivement, t'essayes de retenir parce que tu comprends pas. Mais en fait, tu sens qu'en poussant, tu te sens soulagée.
Mm.
Tu vois, donc tu pousses et là le bébé arrive. Ouais, c'est très spécial parce qu'à chaque fois je raconte à mes enfants leur naissance.
Ouais.
Tu vois, pour leur anniversaire, genre c'est comme ça, c'est le rituel, et donc je leur raconte chacune leur naissance, et c'est marrant parce que j'ai toujours la même émotion. Je sens qu'on m'a rien volé. Mmh. Tu vois, c'est à moi ce moment. Je pourrais leur décrire toute ma vie, en fait, chaque minute, je pourrais leur dire ce que j'ai ressenti, les émotions que j'ai eues à ce moment-là. Comment est-ce que, quand j'ai eu ma fille, quand je l'ai retirée sur moi, la première sensation de chaleur, c'est quelque chose de très spécial, en fait. Mmh. Quand est-ce que, c'est, mes tenues d'accouchement, je les ai toutes gardées. Tu vois, leur premier drap, les premiers trucs. Je n'ai pas lavé mes enfants. On a mis du temps à les laver. C'est parce que ça sent rien, bébé. Et puis l'allaitement, tout de suite. Et puis, puis à un moment, moi, je prends le bébé, je suis en train de regarder. Je sais pas, ça doit faire 10 minutes hein, qu'elle est née. Puis je la regarde et puis elle... et là, sa chambre me regarde, elle me dit « Je crois que ton bébé, il a faim. » Et puis moi, je la regarde et je lui dis « D'accord. » Je la mets, puis je sais pas comment faire. Et puis heureusement qu'elle est là parce qu'elle me dit « Non, regarde, il faut que la bouche du bébé soit comme ça. Il faut que tu sois comme ça. Ça te fait mal. J'ai ça. Ce remède-là. »
Ah oui, elle te conseille immédiatement.
Ah, tout de suite. Tout de suite, t'es dans le bain. Et derrière, mes bébés, jusqu'à ma dernière, que j'allaite encore, parce que c'est ma dernière, mais mon allaitement, j'ai adoré l'allaitement. Enfin, j'adore l'allaitement, ma dernière. C'est mon mari qui me dit tout le temps, qui lui dit à elle, hey, « Eh, ben Yann, c'est bientôt fini, hein. » Moi, je suis en mode, « Laisse-nous tranquille. » Ouais, c'est... Ouais, c'est un moment... c'est les moments que j'oublierai jamais. Jamais de ma vie.
Et alors là, tu te retrouves dans ton salon avec ton bébé. Mmh. Il se passe quoi?
Elle reste 2 heures.
D'accord.
D'accord, elle regarde si tout va bien, sachant que j'ai beaucoup saigné.
Ouais.
D'accord. Donc, elle regarde si tout va bien. Elle te dit, tu te lèves tout de suite, tu vas prendre une douche.
D'accord.
Pour vérifier comment tu tiens sur tes jambes, comment est-ce que t'es.
Oui.
Ouais, elle te dit tout de suite, en fait. Enfin, tout de suite, genre, t'as allaité le bébé, t'as pris ton bisou, t'as main, t'as reposé. Et après, elle te dit, bon, tu te lèves. Tu te lèves, tu vas prendre ta douche. Il y a un sentiment de vide, tu vois. Quand tu te lèves, t'as porté un bébé, t'as un gros bison. Et puis un sentiment de vide bizarre. Ça aussi, ça m'avait marqué. Puis je prends ma douche et je me sens très bizarre. C'est comme si ça y est, c'est fait. Mais c'est pas fait seulement, j'ai mis mon bébé au monde. C'est bon, c'est fait, j'ai le droit d'être une maman.
Ouais.
Tu vois, c'est tout ce cheminement.
T'as repensé à ton bébé mort-né à ce moment-là?
Je sais pas. Hein. Je saurais pas te dire. Je pense que oui, inconsciemment, évidemment. C'était trop frais, tu vois. Mais oui, je pense que oui. Hein, c'était. Mais en fait, c'était le point final, tu vois. Donc, je pense que c'était vraiment inconscient. C'est-à-dire que ça y est, cette partie de ma vie, je peux la mettre, la remettre dans le passé. Elle m'appartient plus.
Le fameux deuil dont tu parlais tout à l'heure.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, elle reste 2 heures. Et après, elle part. Elle revient le lendemain. Elle vérifie, déchirure, tous ces trucs-là, donc le placenta, on a fait ça et tout. 24 heures après, c'était presque cicatrisé.
Ah ouais.
Tu te rends compte? Ah oui, bébé, presque 4 kilos.
Ah oui.
Ouais, 3 kilos 820. Grand bébé, d'ailleurs grand, hein, me dépasse de 2 têtes. Mais grand bébé, 52 cm, 3 kilos 820, un premier bébé, tu vois, accouché sans péridurale et tout, et une petite déchirure. Tu vois comment c'est important, en fait, le côté physio, le côté ton corps, en fait, tu vas laisser gérer un truc qui sait faire depuis toujours. Tu vois, finalement. C'est juste qu'aujourd'hui, on essaye de trop cérébraliser quelque chose qui est intuitif.
Et alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman?
Bah ouais. Mmh. Ouais. Tu sais, j'ai une espèce de théorie claquée, hein, mais c'est pas grave. Mais Je pense que, en fait, tu vois, dans les accouchements pas physio, quoi, trop médicalisés, en fait, je pense qu'il manque un maillon de la chaîne pour la maman. Et du coup, c'est ce qui la pousse au baby blues. Parce que c'est comme si, tu vois, ce moment de douleur, il est important pour comprendre qu'on met au monde cet enfant et qu'il arrive. Mais quand il n'y a pas ce moment de douleur, en fait, c'est comme si on enlevait un maillon de la chaîne et que derrière, on se dit, mais c'est quoi ce bébé? Pourquoi il est là? Je te parle vraiment de façon physio et inconsciente, pas au niveau, voilà, quand il faut faire une césarienne d'urgence, il faut la faire, tu vois. Mais je te parle vraiment, dans la construction de l'humanité, la douleur est normale pour mettre au monde un enfant. Ce n'est pas normal de ne pas avoir mal.
Mm.
Tu vois, la souffrance est importante. Donc, du coup, après, j'ai été une maman. Ce qui m'a choquée, c'est vraiment les réveils, en fait. Tu te dis, mais c'est quand que ça s'arrête? C'est quand le bébé dort, en fait? Et cette faculté... Ah oui, et pendant l'accouchement, ce que je t'ai pas dit, c'est que entre les contractions, tu dors.
Ah oui?
Ouais, entre les dernières contractions, les plus douloureuses, tu vois, par exemple, t'as une contraction d'1 minute et tu vas avoir un repos de 30 à 50 secondes. Et ben, pendant 30 secondes, tu dors vraiment. Tu sais, ton corps, il se met en mode. Et après, ça revient. Et tu te réveilles par la douleur. Tu sais, c'est dingue quand même, c'est le corps. Tu sais, pour... C'est comme pour... allez, on va chercher l'économie d'énergie, là. On se met en mode énergie. On arrête tout,
ouais,
tu
vois. Recharge.
On recharge et après, on... Donc, ouais, c'est ça, ça aussi, c'était... C'est dingue. Donc, dans mon rôle de maman, tout de suite, c'était OK. Mm. C'était OK les débuts, hein. Parce qu'après, tu fais l'erreur du premier enfant. Tu sais, t'es une maman trop protectrice, en fait. C'est normal de passer par là. Tu sais, ton enfant, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais ton monde tourne autour de ton enfant, ta vie tourne autour de ton enfant. Tu es lié à cet enfant d'une façon trop fusionnelle, le premier. Surtout que moi, il y avait quand même le passif d'un bébé que j'ai déjà perdu, donc... Ce bébé-là, rien ne me garantit que je peux pas la perdre encore. Tu vois, il y a un peu ce côté. Même si tu fais le deuil, t'as toujours ce petit truc, en fait, en toi. Mais c'est naturel. Tu vois, c'est juste une vérité indéniable. On sait tous... personne ne sait quand on va partir, tu vois. Et il n'y a pas d'ordre. Donc, forcément, il y a ce petit truc. Mais après, bon, ça fait partie de la vie. On ne va pas paranoïer non plus, tu vois. Mais voilà, c'est quand même... ouais, c'est quand même... Donc, la première, j'ai été une maman, mais une maman quand même protectrice, ouais.
Et alors, au bout de combien de temps
La deuxième presque 3 ans.
Ouais. Donc là, immédiatement, accouchement à domicile, ah ouais, bien, la question évidemment. se pose même pas.
Ouais. Ouais. Ah ouais. Pareil. Alors elle, ce qu'elle m'a fait, c'est, comme c'était un gros bébé, donc la sage-femme a cru qu'elle était à quelques jours de l'accouchement à l'envers.
Ah oui.
Et qu'elle se positionnait en siège. Donc elle me dit, un classique, écoute, si elle se retourne pas, on va accoucher à l'hôpital. Et tu vas rire, mais pour chacun de mes accouchements, il s'est passé un truc comme ça.
Ah oui.
Tu vois, donc, si nanan, accouchons à l'hôpital. Et dans les 2 jours... Donc après, on est parti faire une écho d'urgence. Mm-hmm. Et on a vu que non. Donc ça va. Alors, Tesnim, est-ce qu'il y a eu la fissure? Non, je crois que c'est que le coup du retourné, en fait. Elle m'avait pris rendez-vous directement avec le chef du service pour faire un retournement, tu sais, directement à l'intérieur.
Ouais.
Elle m'avait dit, voilà, c'est douloureux. Mais tu vas devoir le faire si tu vas coucher à la maison. Et si tu veux pas de César. Parce qu'elle, pour elle, le pire truc, c'est une César pour une femme. Parce qu'elle sait les conséquences que ça a. Après, il y en a pour qui ça se passe super bien et tout, mais ça reste quand même quelque chose de compliqué dans la naissance.
Oui, dans la connexion avec le bébé, comme tu disais.
C'est ça, la connexion avec le bébé aussi. Après, comment s'occuper d'un bébé quand soi-même on doit cicatriser, qu'il y a une coupure, c'est quand même douloureux pour la mère. Mm-hmm. Donc c'est dur de se centrer sur se rétablir et en même temps s'occuper d'un nouveau-né qui demande toute ton attention.
Mm-hmm. Et le troisième, alors, c'était quoi le cas de figure ?
Cas de figure, alors elle, c'était particulier parce que ma petite MNA, déjà ça n'allait pas très bien avec son père. Donc, je voulais déjà divorcer et je suis tombée enceinte.
D'accord.
Donc, j'ai pas divorcé. Je me suis dit, c'est un signe, faut que je reste, blablabla. Donc, du coup, je suis restée, mais c'était une grossesse pas du tout désirée parce que j'avais repris mes études et j'allais passer ma soutenance, en fait, à la fin de la grossesse. Donc, ce qui est marrant, c'est que, bon, j'étais dans un institut privé où on faisait beaucoup de PNL et tout, donc elle a absorbé toutes ces ondes-là.
C'était des études de quoi ?
Alors, je faisais mes études pour être thérapeute, donc c'était tout ce qui était sciences comportementales, PNL, donc la programmation neurolinguistique, tout ce qui est relié aux émotions, tu vois, plein de modules, en fait, où tu comprends comment l'être humain fonctionne. Et du coup, tu vois, le fait d'être enceinte, et depuis le début, hein, et qu'elle soit baignée complètement dedans. Tout le temps, mes formateurs me disaient, vous allez voir cet enfant, vous avez vraiment de la chance parce qu'elle est imprégnée de plein de choses hyper positives et tout. Et c'est vrai que MNA, c'est une petite fille qui est hyper sensible. Donc, tu vois, elle, les émotions, elle s'y connaît, tu vois, ouais. Mais en même temps, c'est un rayon de soleil. Donc, tu vois, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Tesnim, pour revenir à la deuxième, elle... Tu vois, elle a acté le fait que j'étais une maman. Tu vois, la première, c'est comme si que j'étais en période d'essai. Tu vois, c'est bon, j'ai pu mettre au monde, j'ai pu avoir un bébé, le bébé va bien, elle est belle, elle est sympa, elle est nanan. Et la deuxième, c'est comme si qu'elle avait vraiment acté, en fait, le fait que j'étais une maman. Et du coup, c'était mais trop bien la maternité avec elle, mais trop bien le maternage. Genre, c'était trop bien. Enfin, j'ai vraiment aimé, genre, apprécié, pareil, allaitement long et tout. La première aussi, mais la première, c'était comme une guérison pour moi. Alors que elle, c'est comme si que je découvrais ce que c'était sans avoir de douleur. Passé, tu vois, lié à mon passé. Donc c'était c'était vraiment mon petit bébé bonheur, hein. Je l'appelais bébé bonheur. Puis en plus t'es pas du tout stressée. Tu vois, il y a quand même un truc qui se passe avec le deuxième.
Ouais, c'est t'as plus d'assurance.
Vraiment le tampon, voilà. En tant que mère, t'as plus d'assurance, t'as plus de confiance en toi. Tu sais que alors moi j'ai toujours été une maman qui s'en fout du matériel. C'est-à-dire que ma sage-femme m'a appris que ton enfant il s'en fout, il a besoin que de toi. Rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire que si toi t'es bien dans ta tête, ton enfant il va être bien. Si t'es pas bien, il va le ressentir. Tu peux pas lui mentir. Donc il y a vraiment cette notion de ah ouais, bah, c'est vrai, je m'en fous à vrai dire. Enfin, l'essentiel. Et du coup, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Même après, hein, quand au fur et à mesure que les filles grandissent, moi, donc je me suis complètement détachée de l'aspect matériel pour les enfants, vraiment. Hein. C'est-à-dire que moi, mes enfants, ils n'ont pas beaucoup d'habits. Tu vois, j'aime pas. Bon, maintenant, ma petite dernière, c'est pas pareil, je te l'avoue. Je te l'accorde parce que c'est ma dernière. D'accord? Mais, tu vois, je joue pas à la poupée avec mes filles, par exemple.
Ouais.
Tu vois, je veux pas les habiller. Je leur ai appris, par exemple, un truc tout bête, mais vous habillez comme vous voulez. Même s'ils sont petits, ils s'habillent n'importe comment. Vous habillez comme vous voulez. Et les gens, on s'en fout dehors. Et tu vois, et je pense que c'est parce que j'avais compris que l'essentiel était pas là-dedans. C'était pas dans le fait de leur donner du matériel, mais de leur donner une présence. Tu vois, quelque chose qui va les rassurer. Alors, pour la troisième, MNA, elle, je l'ai gardée trop longtemps dans mon ventre. En gros, j'ai dépassé d'un peu plus d'une semaine.
Ok.
Sachant qu'à l'hôpital, ils te disent, mais elle, ma sage-femme, me dit, bon, écoute, on dit que c'est 39 semaines, mais en vrai, c'est une moyenne. C'est-à-dire, c'est pas grave. En fait, tant que t'as du liquide et tout, c'est pas grave s'il reste un peu plus longtemps. Donc voilà, sauf que, alors, pour MNA, elle était un petit peu inquiète, la sage-femme, elle me prenait un peu la tête parce qu'elle me disait, je pense que t'es fatiguée. C'est vrai que j'avais donc les deux enfants,
eh oui.
Un couple qui n'allait pas super bien, et la reprise de mes études, la soutenance en fin d'année. Donc je peux te dire qu'à la fin de l'année et quelques mois avant l'accouchement, j'étais vraiment éclatée, tu vois. Et le truc, c'est que la petite prenait pas assez de poids. En fait, elle comparait à mes autres bébés.
Ouais.
Sauf que en fait, elle prenait un poids normal. Hein. Ça veut dire qu'elle n'était pas en dessous de la norme. C'était pas inquiétant. Mais pour elle, en fait, comme mes bébés sont des gros bébés, la deuxième, elle faisait quand même 3,980 kg. Ça veut dire qu'on a 20 grammes de 4 kg, tu vois. Donc, tu vois, c'était... pour elle, c'était le poids de mes bébés. Et du coup, elle s'inquiétait parce que non seulement... Donc, une semaine de retard. Et en plus, elle m'a dit, écoute, si ça continue, si tu ne me fais pas sortir ce bébé...
Hôpital.
Va, encore une fois, je pleure. Tu sais, c'est marrant parce que c'est toujours le même schéma. Tu sais, c'est dingue, quoi. C'est vraiment dingue. Quand j'y repense, tu sais, c'est dingue de passer toujours par cette menace pour me dire je vais y arriver, tu vois. Et genre, enfin voilà, quoi.
Pour te confirmer que tu veux vraiment.
Voilà, t'as tout. Exactement. Mais à chaque fois, en plus, à chaque fois, j'appelle ma meilleure amie, ouais, elle m'a dit je vais partir à l'hôpital. Écoute, t'inquiète pas, si tu dois aller à l'hôpital, c'est que c'est un bien pour toi, c'est pas grave. Enfin voilà, tu vois, elle a essayé de relativiser le truc, et moi, c'était mon monde qui s'écroulait, tu vois. Et du coup, j'ai eu la fissure, mais les contractions qui allaient avec.
D'accord.
Et en fait, ce jour-là, mes enfants allaient à l'école et ma belle-sœur, elle devait ramener mes enfants. J'avais fait tout un planning, tu sais, quand t'as des... Enfin, tu dois tout prévoir, quoi. Et j'avais fait tout un planning et du coup, j'avais dit à ma belle-sœur, voilà, tu vas me ramener les enfants. Donc, je lui avais noté à l'époque l'adresse sur un bout de papier. Et en fait, quand j'ai habillé ma fille, le bout de papier, j'avais posé sur un tabouret. Et moi, je me suis assise dessus. J'ai mis le manteau à ma fille, mais genre 2 secondes. Et après, je lui ai donné le papier. Il y avait du liquide amniotique. Et qu'est-ce qu'on avait rigolé. Tu sais, genre, on avait rigolé après, mais vraiment le papier. Mais j'avais dit, j'ai pas le temps. Tu débrouilles. Et c'était vraiment drôle, quoi. Tu vois, c'est plein de petites anecdotes comme ça.
Mais oui, parce que du coup, pour ton troisième à domicile...
J'en avais deux.
Ouais, il fallait les faire garder pour prévoir.
Voilà. Alors, pour la première, j'ai fait garder chez une voisine, avec qui on était proche, donc habitait juste à côté, donc voilà. Parce que j'avais demandé à la sage-femme, est-ce que l'enfant peut rester ? Elle me dit, écoute, moi, je déconseille parce qu'il ne faut pas que l'enfant qui n'est pas en âge de comprendre que tu es en train de donner naissance en veuille à ce bébé qui a fait du mal à sa maman. Parce que pour lui, c'est ce qu'il va voir. Et en plus, moi, je crie. Je crie très fort. Oui. Tu vois ? Moment de la délivrance, je crie. mais moi, je suis choquée. Tu sais, tu contrôles pas un truc qui sort comme ça. Et t'es là, bah dis donc.
Je prévois les voisins, tu fais une petite note en bas.
C'est ça. Non, mais c'est vraiment drôle parce qu'en plus, bon, la première, je l'ai accouchée à 13h, donc ça va. J'ai crié, après, ils ont entendu un cri de bébé, donc ils ont compris. La deuxième, quand même, 8h du matin. Ouais. Donc voilà, bon, un dimanche, donc j'ai crié, ils ont entendu le bébé, ils ont compris. Et la troisième, 11h du matin, semaine, j'ai crié, je pense que personne n'a entendu le bébé, mais voilà, donc c'était cool. Et pareil, accouchement assez rapide, sauf que ben, y a eu un moment où j'ai plus de contractions.
Ah oui.
Quand elle m'a dit, le bébé, ça y est, c'est engagé. J'ai plus de contractions, mais je pense que j'avais peur en fait. J'avais peur parce que je savais que ça n'allait pas dans mon couple. Et je voulais pas... C'était une grossesse non désirée, tu vois. Et puis j'en avais parlé à la sage-femme. Je lui avais dit, écoute, ça va pas. Bon, voilà, là je suis enceinte, mais... Enfin, voilà, ça va pas, quoi. C'est vraiment le destin. Hein. J'étais sous contraception et tout. C'était vraiment pas... tu vois, c'est pas genre... non, j'étais... Mmh. Voilà. Et en fait, d'un seul coup, ça s'est arrêté. La sage-femme, elle comprend pas, elle me dit, mais
qu'est-ce qui se passe ? Ton mari, il était là ?
Il était là.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe ? Et je lui dis, je veux pas, en fait. Enfin, tu vois, le pouvoir du cerveau.
Ah, incroyable.
Je lui dis, mais je veux pas. J'ai peur, je veux pas. Elle me regarde, elle me dit, écoute-moi bien. C'est pas le moment de faire ça, tu vas le mettre au monde, ton enfant. Parce que t'es la meilleure mère qu'il pourrait avoir. Donc, maintenant, tu t'arrêtes. Tu régleras ça après.
Ouais.
En fait, elle m'a mis ce coup de pression. J'ai pleuré. Et c'est comme si que j'avais accepté, tu vois, que je pouvais pas m'arrêter. Tu sais, en beau milieu, comme ça.
Ouais.
Enfin, le bébé était engagé. Tu sais, genre, elle l'entendait plus là. Ça y est, elle entendait plus son cœur au stéthoscope. Donc, c'était en bas, c'était engagé dans le bassin. Et ça s'arrête. On me dit, va marcher. Je vais marcher, je reviens. Et là, les contractions reprennent, tu vois. Elle me dit, va réfléchir, va marcher. Je me dis, et je me rappelle, j'avais parlé avec mon ex et je lui avais dit mais je veux pas, je suis toute seule parce qu'il travaillait beaucoup, j'assume déjà les deux, comment je vais faire, et les nuits, et l'allaitement, et les deux autres. Et tu vois, il y avait tout ce truc, et puis moi je voulais commencer ma carrière, je voulais faire des choses, je voulais...
Tu savais en fait qu'après ce bébé, ça allait être toi et les enfants.
Ouais,
et
encore quoi, voilà, encore. Tu vois, la première, elle nous a rapprochés parce qu'il y avait eu un drame juste avant. Mais en fait, on n'était pas fait l'un pour l'autre, tu vois, tout simplement. Lui, il est parti vers un chemin, moi un autre, on n'était pas compatibles. Et en fait, on a eu des enfants. Quand j'ai eu la deuxième, j'étais contente parce que voilà, c'était ma famille encore. Mais en fait, la deuxième, je me suis dit, non, mais en fait, non, je ne vais pas rester avec lui. Et bim, est arrivée la troisième, tu vois. Et du coup, tu as l'impression d'être piégée à cause de ce bébé. Après, bien évidemment, rien ne t'empêche de quitter la personne et tout, mais c'est pas ça. C'est que moi, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pris ça comme un signe, donc j'étais convaincue. Tu vois ?
Ouais, justement, peut-être que t'as réalisé au moment où t'accouchais que c'était la fin. Quoi.
Voilà. C'était pas possible.
Ouais.
C'était pas possible. Du coup, après, j'accouche. Bébé arrive. Pareil, rôle de maman géré, tu vois, ce truc-là de maternage, c'était pas un problème pour moi. Ouais. Cododo, mais j'adore. En fait, c'est moi qui m'épanouis là-dedans. C'est même pas que les enfants. C'est-à-dire que moi, j'aime mes bébés les renifler, les sniffer tout le temps avec eux. Tu sais, limite, j'ai l'impression que on continue la grossesse.
Ouais.
On continue jusqu'à ce qu'ils soient en éveil d'aller voir le monde, tu vois. Mais en attendant, moi, je suis là pour eux et j'ai besoin d'eux. Je me sens pas oppressée. Après, je me donne des temps pour moi. C'est pas le problème, tu vois. J'ai besoin de ça. Mais les premiers mois, oubliez-moi, je suis plus une femme, je suis une mère. Tu vois. Et j'ai conscience de ça, mais j'ai conscience qu'après, j'ai besoin de revenir à mon rôle de femme. J'ai besoin d'être qu'une femme. Tu vois, pendant... Et cet équilibre-là, il est super important à bien comprendre, tu vois. Au début, dès le début. Mais il faut passer par les erreurs hein, pour,
bien sûr.
Pour réussir à bien se caler dans ses rôles.
Et alors, du coup, au bout de combien de temps vous vous séparez avec le papa?
Alors, tu vas rire. Je veux me séparer. Je retombe enceinte. Encore une fois, sous contrat. Enfin, c'est-à-dire que là, on va dire, mais c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible, elle ment. Mais je retombe enceinte. Je fais une vraie dépression. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire que il faut savoir que je tombe enceinte, j'allais encore.
Ah oui.
Tu vois,
combien de temps après?
C'était vraiment pas beaucoup. Hein. Ça devait être. Bon, 18 mois. 18 mois, mais moi, j'espace mes enfants 3 ans minimum, tu vois. Donc, pour moi, c'était trop. Des enfants, 2 enfants en bas âge rapprochés comme ça, avec les. Enfin. Non, c'était pas possible pour moi. C'était pas possible. Je fais mais une vraie déprime. Tu sais, quand je l'annonce à mon ex, parce qu'on voulait se séparer.
Oui, c'était clair pour tous les
deux. C'était clair. Je lui annonce, la façon dont je lui ai annoncé, il a cru que j'allais lui dire que ma mère avait un cancer. Tu vois, tellement j'étais en mode. Franchement, tu sais quoi, j'amène les enfants à l'école, je pleure, je reviens, je pleure. J'avais commencé mon activité pro, ça commençait à se mettre. Je pleure, mais je pleure tout le temps, mais tout le temps. Je suis en mode, et tu vois, pour moi, enfin, dans mes convictions, je voulais pas avorter.
Ouais.
Tu vois, c'était pas possible, tu vois. Et puis je me suis dit, attends, il y en a d'autres qui sont nés, en fait, de ça, dans les mêmes conditions. Pourquoi j'ai pas avorté à ce moment-là, alors? Pourquoi j'avorterais pour ce bébé-là? Tu vois, il y avait cette notion de justice, en fait. Bon, bref. Je suis enceinte et tout. Et un jour, je pleure. J'écris un truc. Je m'écris un truc, en fait. Où je me dis, ça y est, enfin, c'est bon, accepte. Tu sais, ça fait 3 mois que tu pleures. Depuis que tu sais. Tu sais, on était à quelques jours de la première écho.
Ouais.
Donc, je suis en mode, c'est bon. Ça y est, c'est pas grave. Tu vas avoir un gosse, c'est pas grave. T'auras tes gosses, tu te sépares de lui, c'est pas grave, tu vois. Mais je suis vraiment en mode, comment je vais faire, quoi? 2, c'est pas 3, c'est pas 4, tu vois. Et puis, je suis fatiguée. Parce que c'est fatigant, des enfants. Donc, je suis pas la même que il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Enfin, c'est bon, quoi. J'accepte, je pleure, mais toutes les larmes de mon corps, hein. Je pleure toutes les larmes de mon corps. J'écris ce billet là à moi-même qui est resté sur un ordi. Je sais même pas où il est. Je lâche mon truc. Je pleure. J'accepte. Je me dis c'est bon. Je vais arrêter de pleurer. Ce bébé il mérite pas ça en fait. Il mérite pas une maman qui est en état de dépression. C'est bon. C'est là. C'est là. Je vais pas lui faire payer un truc. Lui il est pour rien. Je dors et je me dis c'est bon. J'accepte. Et je dors. Et je rêve. Je rêve de plein de trucs. Et je suis réveillée par une contraction, et là, je sens un écoulement, tu vois.
Ah oui.
Et je me dis, tiens, c'est bizarre. J'ai jamais fait de fausse couche. Et je me lève et je vais aux toilettes, et là, je vois du sang. Et je me dis, d'accord, je sais que c'est une fausse couche.
Ah, c'était trop bizarre. Tout de suite,
je réalise tout de suite, en fait, et je me dis, c'est bizarre. C'est comme si, qu'en l'acceptant, j'avais délivré ce bébé. Tu vois, c'est trop bizarre, en fait. Mmh. Il s'est passé un truc trop bizarre. Je vais à l'hôpital...
Retour
à l'hôpital, bien sûr. Donc moi, j'arrive, je fais une fausse couche, ils vérifient, effectivement, plus de cœur, plus rien. En plus, j'étais, genre, le lendemain, j'avais rendez-vous pour la première écho, tu vois, vraiment le truc. Et je vais à l'hôpital, et puis je vois le sang-cœur de l'hôpital. Tu sais, je suis sortie un peu de chez moi en catastrophe, tu sais, j'ai rien pris avec moi. Tu sais, je me suis dit, mais qu'est-ce qui... Et puis, bien sûr, j'étais toute seule.
Ouais.
J'ai déposé les enfants à l'école. J'ai rien pris avec moi, je sais pas pourquoi, et je suis partie direct à la clinique. Et je vais à la clinique et je leur dis voilà, et ils font le truc. Ils me disent ouais, je vous donne pas le cachet, vous venez d'abord régler. Tu sais, je me dis on est où?
Ouais, tu dois passer à la caisse avant de passer au.
Mais ça me choque parce que le mec, à aucun moment il s'est dit bah la pauvre elle est en train de faire une fausse couche, tout simplement. Tu sais, genre il connaît rien de moi, il a bon alors on va vous donner le cachet, bah par contre je vous donne, mais alors, à ce moment-là d'abord vous passez, vous ramenez, je vous prépare l'ordonnance et à ce moment-là vous pourrez venir récupérer. Aucune humanité, aucun soupçon de se dire bah peut-être que la meuf elle a galéré à avoir cet enfant et qu'aujourd'hui c'est son monde qui s'effondre, peut-être que, et tu vois quand j'entendais ça je me disais mais heureusement j'accouche pas à l'hôpital, tu sais ça m'a remonté les nerfs, tu vois.
Mais...
Voilà, donc après je vais, il me met l'ovule, je fais le. Je crois que j'ai fait ça à la maison, quoi. Je crois que ça s'est fait aux toilettes. J'ai même pas fait attention à ce qui s'est passé. Tu sais, j'étais dans un autre état. Pourquoi? Parce qu'il s'est avéré que j'ai fait une hémorragie de malade. C'est-à-dire qu'après coup, je perdais, mais vraiment des caillots de sang. Mais ça ne s'arrêtait plus. Donc, évidemment, je suis toute seule. Hein. Dans tout ce merdier, je suis toute seule. Donc je me dis, ok, c'est pas grave, on va régler cette affaire après, tu vois. Et après, je pars à l'hôpital, je m'en rappelle, toute seule. Je suis en vertige, tu vois. Mm. Je perds du sang, mais c'est pas possible, en fait. Ce que je suis en train de perdre, ça m'inquiète vraiment. Je vais aux urgences, je tiens pas debout. Tu vois, j'ai perdu trop de sang, donc j'ai dû faire une carence en fer de malade. Donc je tiens pas debout. Et je me présente, je suis comme ça, genre, donnez-moi s'il vous plaît des serviettes, j'ai plus en fait, c'est trop. Genre toutes les 10 minutes, je vais changer des serviettes et je leur dis, mais ce que vous me donnez, c'est pas suffisant en fait. Pourtant, ils te donnent les grosses à l'hôpital. Ouais. Mais je leur dis, mais donnez-moi encore plus gros. Et en fait, il s'avère que, je sais pas combien de temps après, je me fais ausculter. Genre, mais j'étais en train de... Mais franchement, j'étais en train de me dire, mais c'est pas possible. L'hôpital, c'est ça. Genre, ça sauve des vies. Genre, vraiment. Mais j'étais littéralement en train de me vider de mon sang. Genre, mais c'était trop. Ma tension n'arrêtait pas de baisser. Dans mes prises de sang, ils ne pouvaient pas voir tout de suite le faire, puisque mes prises de sang, c'était tout de suite. Donc, tu vois, c'était... Ils prenaient pas ça au sérieux. Mmh. Tu sais, ça me choquait vraiment, tu vois. Je suis enfin auscultée au milieu de la nuit, qui devait être 3-4 heures du matin. Donc, s'il te plaît, les conditions... C'est-à-dire que moi, je viens de faire une fausse couche, je suis en train de me vider de mon sang, et tu m'auscultes maintenant, et je suis assise. C'est-à-dire, à quel moment tu te dis, je vais la mettre dans une chambre, ou même sur un brancard, je m'en fous, mais mettez-moi allongée. Oui. Je peux plus, en fait, il n'y a plus de sang qui arrive. Donc, il m'ausculte, je ne sais pas ce qu'il me donne, et je crois qu'il me retire un truc qui a bloqué à quelque chose, en fait. Tu vois, l'hôpital, ils ne t'expliquent pas, les mecs. Ils sont là, ils font leur truc. Hein. Ouais, mais s'il vous plaît, j'ai quoi ? Ouais, en fait, c'est un truc de machin, de non. Et tu sais, moi, j'étais pas en état de fight. Tu vois, j'étais en mode, ouais, d'accord, ok, c'est bon. Juste, arrêtez-moi ça. Et après, je rentre chez ma mère, qui ne savait pas que j'étais enceinte. Donc, qui ne savait pas que j'avais fait une fausse couche. Mmh. Parce que tout ça, ça s'est passé trop vite. Et du coup, je me dirige chez ma mère avec mes enfants. Je suis dans un état, il y avait ma sœur à cette époque, parce que maintenant, elle vit en Suisse. Mais... Donc, c'est elle qui vient me chercher à l'hôpital. Parce que je suis plus en état de conduire, en fait, je me suis trop vidée. Bah, oui. Ma mère qui me prépare, et vas-y du steak deux fois, et vas-y du steak, et vas-y le faire, et vas-y nana, et vas-y les soupes, et vas-y. Genre, au bout de 48 heures, j'arrive à peine à me lever. Tu sais, c'est quand même. Ils m'ont donné des tartes différentes, quoi. Tu sais, genre, à aucun moment, ils se sont dit, on va faire quelque chose pour me mettre au moins du fer, tu vois, dans le sang, indépendamment d'une transfusion. Mais un truc, vous êtes à l'hôpital, il y a la science, je sais pas, il y a des trucs, tu vois. Rien. Et après, je rentre à la maison. Puis après, je me dis, c'est fini. Tu vois, genre, c'est bon. Et c'est bon. Mmh. Et du coup, ça a été, encore une fois, un mal pour un bien. Parce que souvent, on vit des choses, sur le moment même, on ne comprend pas la sagesse des histoires, la sagesse des épreuves, la sagesse de ce qui t'arrive. Mais en vérité, franchement, c'est les deux épreuves de ma vie, ça a été les plus belles choses de ma vie. Ma première épreuve, ça a été... Mais la plus belle histoire de ma vie, parce que sans ce que j'avais vécu, j'aurais jamais voulu me réapproprier mon corps, qu'on m'a volé, tu vois. Mes naissances, mon rôle de mère, ma maternité, enfin, tu vois, genre, toutes ces choses sur lesquelles je me suis interrogée parce que j'ai estimé qu'on m'avait volé ça.
Ouais.
Tu vois, ça m'a ramené à tout ça. Et du coup, après, j'ai quitté mon ex, qui est un gars génial. Hein. C'est-à-dire, c'est un super papa, il s'occupe bien de ses filles. Enfin, voilà. Mais on n'était pas compatibles. Mmh. Et du coup, après, je l'ai quitté. Après, voilà. Après, s'en est suivi l'éducation des enfants en mode moitié solo, parce que quand même, il s'en occupait bien. La famille qui était là. Enfin, voilà, tout le monde était présent, tout ça. Et après... Voilà, pendant un long moment, j'étais seule. Et puis voilà, après, j'ai rencontré mon mari. Après, il y a eu encore un autre bébé.
Que tu allaites toujours, d'ailleurs.
Ouais, 27 mois que j'allaite toujours.
Mais alors, entre-temps, du coup, tu as développé ton activité. Est-ce que toute cette expérience de la maternité, c'est ce qui t'a amené à ça, justement?
Mais à 100%. Moi, au début, il faut savoir que quand je me suis lancée dans une association pour accompagner et informer les femmes sur la possibilité de se réapproprier leur corps, leur esprit, indépendamment de ce qu'on imposait à tous les niveaux. Donc au début, c'était des petits ateliers comme ça, vite fait. Et après, je me suis, comme avant ça, j'étais engagée dans une association justement pour le développement de l'enfant, tu vois, tout ce qui était en rapport avec ma vie. J'avais proposé des ateliers. En fait, on avait remarqué qu'un enfant qui n'allait pas bien, c'était la maman qui n'allait pas bien. Tu vois, on avait remarqué dans les ateliers que quand il se passait un truc avec l'enfant, qu'on avait des problèmes, eh ben, on remarquait que la mère, ça n'allait pas. Donc, au début, quand j'ai repris mes études, c'est parce que je me suis dit, vous savez quoi, je vais me former, je vais faire un truc carré. Et en fait, on va faire des ateliers pour les mamans, sans leur dire que c'est parce qu'il y a des problèmes éventuels ou quoi. C'est vraiment pour leur dire, voilà, les meufs, occupez-vous de vous. Vous serez une meilleure maman. Tu vois ? Pas dans le sens occupe-toi physiquement, mais vraiment moralement et émotionnellement. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, ça a commencé comme ça. Au début, c'était des ateliers sur la confiance, sur son rôle de mère, sur allier mes différents rôles. D'ailleurs, on avait monté une association qui s'appelle Miroir, mon beau miroir. Genre, en gros, tu te regardes dans le miroir, mais regarde-toi comme t'es vraiment. Mmh. Et pas comme ce que la société veut que tu sois. Tu vois ? Mais ça date, hein. Ça date quand même d'il y a 10 ans, ce truc-là. Donc, c'était vraiment novateur, très novateur. Je pense trop novateur pour moi. Trop novateur pour le peu de temps que j'avais pour développer ça. Mmh. Tu vois, donc c'était beaucoup bouche à oreille, tout ça. Puis voilà, l'activité s'est développée en fait comme ça. Et de fil en aiguille, les réseaux sociaux, de fil en aiguille, les rencontres. Puis tu sais, ça se fait presque tout seul en fait.
Parce qu'aujourd'hui, du coup, tu es conseillère en développement personnel et en fait, thérapeute.
Ouais, moi je suis consultante en développement personnel. C'est-à-dire que je connais tous les outils du développement personnel et que derrière, en gros, tu me consultes peu importe sur quoi, au niveau de ton comportement ou de ton rôle, ou de, en fait, tout ce qui est toi. Tu vois, genre ton rôle, ce que tu veux faire, comment tu te sens, comment tu vis, comment, hein, tout ce que tu veux faire, en gros, tu vas me consulter pour ça et moi, je vais t'aiguiller. Mmh. Et du coup, je fais de la thérapie, ouais. De la thérapie. Mais quand tu dis thérapeute, il y a des gens, ils ont un peu peur. Et en plus, moi, la thérapie, c'est pas que de la psycho. C'est aussi du développement personnel, donc j'ai plein d'outils, donc j'utilise tous mes outils.
Et est-ce que tu as beaucoup de questionnements de mamans, de patientes ?
Moi, j'ai beaucoup, pas par rapport à leur maternité, parce que je pense que je mets plus trop ça en avant, tu vois, mais vraiment par rapport à elles, en fait, c'est comme si on arrivait au point où elles sont trop envahies par leur rôle de mère et qu'elles doivent réapprendre à se connaître telles qu'elles sont, indépendamment de ce rôle-là, tu vois ? J'ai beaucoup ce truc-là. Il y a beaucoup cette culpabilité, tu vois, d'être une mauvaise maman à ses dépens. Donc, on donne tout à son rôle de mère et on s'oublie complètement.
Ouais. Tu parles aussi de la sexualité au sein du couple.
Ouais, ouais. Tout ce qui a trait aux femmes, même aux hommes. Hein. Les hommes aussi, je les suis. Enfin, j'ai des patients hommes. Mais ma majorité, évidemment, c'est les femmes. Oui, je parle de tout. En fait, tout. Tu vois, tu peux venir, par exemple, tu peux venir pour un problème, ouais, j'ai dû, enfin, ça arrive en plus souvent, ces cas-là, c'est genre, je viens pour régler un problème anodin, tu vois, ouais, j'ai envie de, je sais pas pourquoi, j'ai pas confiance en moi, je veux conduire sur l'autoroute, j'y arrive pas, puis on va arriver à une famille super toxique, tu vois, ouais. Le truc, tu passes par une petite porte, mais en fait, tu sais que derrière, qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus lourd, et les personnes, en général, elles viennent vers moi parce que... elles savent que ça va être facile, en fait, que ça va... Enfin, je pense que c'est ça, ma marque de fabrique, c'est vraiment le côté « Eh, c'est bon, tu vas passer à autre chose, enfin, t'inquiète, ça va aller. »
Un peu comme ta sage-femme.
C'est ça. Tu vois le lien ?
Ouais.
Et en plus, je suis trop contente parce que, tu vois, ça fait longtemps que je la connais et du coup, j'ai pu accoucher avec ma dernière, avec ma sage-femme.
Ouais.
Donc, on a bouclé la boucle. C'était pas concevable. En fait, c'était trop dur pour moi de me dire que ma petite dernière, je l'accoucherai pas... avec ma sage-femme. Et ouais. Et c'est elle qui a fait naître tout ça en moi. Elle sait pas. Hein. Tu sais qu'elle sait pas tout ce que je fais. Hein. Elle a pas les réseaux sociaux et tout. Donc elle sait pas quelle est la genèse de tout ça. Elle le sait pas. Et je suis sûre que même si je lui disais, elle n'y croirait pas. Tu vois.
Ouais.
Tu vois, ces gens qui te marquent à vie et qui sans le savoir, ont un impact sur plein de monde derrière. Tu vois, c'est... Je l'aime tellement. Je pense qu'elle ne sait pas à quel point je l'aime. Mais quand elle me dit, tu sais, hein, moi, je marque votre histoire. Elle me dit, mais vous, vous êtes une naissance. Tu vois, une naissance. Vous avez chacun votre place, mais vous êtes quand même une naissance.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Bah, tout. Tu sais, c'est comme une mutation. Tu deviens une autre personne. Quand tu deviens maman, tu deviens maman. Tu peux pas faire comme si tu n'étais pas une maman. Tu vois, même quand on prend des temps pour soi, qu'on part en vacances, par exemple, quand on se fait des week-ends avec des copines ou des trucs comme ça, bah, à un moment donné, on est toutes en train de se montrer les photos de nos gosses. Tu vois, c'est que qu'à un moment donné, bon, ok, t'es une maman, mais enfin, t'es là et tout, t'es dans un bon mood, mais ça revient toujours, tu vois. Après, c'est pas... tu vois, moi, je suis hyper... on n'est pas hyper fusionnel avec nos enfants. C'est-à-dire que bah, quand elles vont chez leur père, je les laisse chez leur père. Mm-hmm. Tu vois, je vais pas les appeler 50 fois pour savoir... tu vois, genre, on s'envoie quasiment pas de messages, quand on se voit pas pendant les vacances, des choses comme ça, parce que je veux qu'elles profitent, je veux pas être tout le temps derrière eux. Et moi, mon objectif d'éducation, c'est vraiment, je t'apprends à faire par toi-même pour que tu puisses t'envoler tranquille. Tu vois, que tu puisses vivre libre, en fait, être libre de tout ce que tu entreprends, veux, enfin, tu vois. Mm. Ça a tout changé. Puis ça a même changé ma relation à ma mère.
Oui.
Hein, parce que quand tu deviens maman, en fait, tu comprends plein de choses. Ah là là, quand même, je lui ai fait un peu la misère, mais mais bon, elle a un peu souffert et merci maman, tu vois. C'est... Puis même quand tu reproduis des choses, tu vois, moi je vois ma mère, c'était une maman aimante, beaucoup de câlins et tout qu'elle a arrêté de faire à l'adolescence. Mm. Ben moi, je vois c'est la même chose. Tu vois, mes enfants, je les bouffe et tout, mais après quand ils grandissent, c'est bon. C'est, je vais déconner avec eux, je vais être une maman qui va les tailler, rigoler, tu vois, des trucs comme ça, on va avoir une vraie complicité. Mais j'ai plus besoin de ce truc, en fait, où je vais avoir... Enfin, j'ai l'impression que si je les embrasse et tout, c'est encore les mettre au stade de bébé alors que ça devient des grands, tu vois. Je veux pas de ça. Ça, c'est... Mais ça change tout, être une mère, ça change tout. Ça change ta mission. Tout ce que j'entreprends aujourd'hui, tout ce que j'ai envie de véhiculer comme message, tout ce que je veux apprendre aux gens, c'est parce que je veux laisser un monde meilleur pour mes enfants. Mmh. C'est avant tout ça. En vrai, c'est égoïste. Tu vois, c'est super égoïste. C'est un altruisme hyper égoïste. Tu vois, en fait, je prépare le terrain pour elle. Mais en même temps, j'aide les gens, tu vois. J'essaie de les aider parce que c'est une passion.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ouais.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
C'est une maman speed. C'est être une maman speed. C'est être une maman qui veut partir de Paris. C'est ça. C'est ça, j'ai envie de partir en plus. Donc c'est vrai.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris ?
J'adore le quartier des artistes. Mmh. Vraiment, j'adore. Ça, on y va d'ailleurs souvent. Bah déjà, par les quais, c'est pas trop loin, tu vois. Mais en plus, je sais pas, j'adore l'atmosphère, l'architecture, les mondes qui se croisent. Enfin, je sais pas, il y a un truc que j'aime.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ceux prévus en famille ?
Alors, rien que pour moi, je vais bientôt partir en week-end. Après, j'ai beaucoup de trucs pro. En fait, bizarrement, j'aime tellement mon taf que pour moi, c'est pas un taf. Ouais. Tu vois, donc quand tu me dis... Qu'est-ce que t'as prévu pour toi ? Bah, je vais te dire, bah écoute, j'ai bientôt un entre-meuf, ensuite j'ai bientôt faire ça, et puis j'aimerais bien refaire ça, et puis nanana, donc... mais sinon, que pour moi, un week-end bientôt. Bientôt un week-end. Et en famille, bah les vacances. Mmh. Donc, on reste tous ensemble. En fait, c'est bizarre, pendant les vacances, nous, on a vraiment un rythme... spécial, on est tous ensemble mais en même temps chacun séparé, tu vois. Donc j'essaye de faire des sorties, mais moi je suis pas une maman sortie, truc, ça me saoule. Donc ce que je fais en famille, bizarrement, c'est que je m'accorde des moments avec chacune des filles, tu vois. Je leur donne un temps vraiment que j'appelle le temps en copine, où on est vraiment toutes les deux, où je calcule pas mon téléphone, où je parle avec elles, où on blague, on rigole, on échange. Et voilà, ça va durer quelques heures et ça recharge un peu les batteries de la relation.
Merci beaucoup, Maïssa.
Avec grand plaisir, merci à toi, Shane.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant 5 étoiles et un avis sur votre application podcast et sur iTunes. Et rien de mieux que le bouche à oreille, alors parlez-en aussi autour de vous. Pour échanger sur le sujet abordé avec Maïssa, retrouvez-nous sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour parler de la maternité, la vraie, dans un nouvel épisode.